Rendez-vous de la Francophonie is an annual celebration that promotes the French language, heritage, and its numerous cultural expressions. It runs March 2nd to 22nd, 2017 in communities across Canada. The RVF series, which showcases the diversity, duality, and dynamism of Canada's Francophone communities, is brought to you by La Fondation Canadienne pour le Dialogue des Cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and this station. Please stay tuned for the next half hour for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie. Visit ncra.ca/RVF for more information on the series.
Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis programmeuse à Vancouver Coop Radio, CFRO 100.5 FM, la radio communautaire de Vancouver comme son nom l'indique. Je suis française, installée ici depuis une dizaine d'années. Dans le cadre de cette capsule pour les rendez-vous de la francophonie, j'avais envie de vous faire découvrir la communauté culturelle et artistique francophone de la Colombie-Britannique. Pour tout vous dire, l'idée m'est venue d'un de mes amis français qui souhaitait depuis quelques années réaliser un documentaire sur un point très précis de son immigration au Canada. Julien Capraro, journaliste de formation qui travaille dans les communications ici, n'est pas arrivé à Vancouver tout seul. En effet, il a décidé d'immigrer avec sa deux chevaux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, il s'agit d'une petite voiture française à la réputation qui n'est plus à faire. À l'époque, Julien était loin de se douter à quel point cette petite voiture allait définir ses premières années dans son nouveau pays. En effet, si peu de gens savaient qui était Julien Capraro, tout le monde savait, en revanche, qui était le Français à la deux chevaux. Comme je vous le disais, le projet de Julien a mis un certain temps à se réaliser.
Donc, le projet de ce film, c'est un projet que j'avais depuis pas mal de temps. Moi, j'étais journaliste en France et j'avais le projet de faire des documentaires et j'avais cherché des idées de sujets que je pourrais proposer aux télédiffuseurs à travers le pays, et que ce soit des télédiffuseurs quand notamment une chaîne a ouvert son antenne il y a quelques années, ou bien des boîtes de production au niveau local. Et donc j'avais quelques idées de sujets pour des documentaires que je voulais présenter à différents télédiffuseurs. La difficulté était que il y a peu de canaux, on est dans l'ouest du pays, donc il y a finalement peu de solutions pour trouver des diffuseurs et on n'a pas beaucoup de portes auxquelles frapper. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu parler de ce tremplin qui est organisé par l'ONF et qui est donc un concours pan-canadien hors Québec, mais qui avait pour objectif justement d'ouvrir la porte un petit peu et de donner la possibilité à des gens qui avaient l'expérience mais qui voulaient pouvoir être produits et avoir les moyens de réaliser leur projet, je suis allé donc dans cette direction-là. Sans savoir que j'allais être lauréat, parce qu'on était quelques-uns quand même, mais en fait le sujet était là, cette histoire en fait qui était la plus accessible, qui était l'histoire de moi arrivant en Colombie-Britannique avec une voiture dans mes bagages, et surtout, donc ça c'était le point de départ, mais le vrai coup d'accélérateur c'était la communauté de propriétaires de véhicules français de collection en 2016 à Vancouver, en tout cas en Colombie-Britannique, et le décalage que ça faisait. Donc il y avait ces deux sujets qui sont devenus un documentaire que j'ai modifié avec l'aide de l'équipe de l'ONF pour jusqu'à ce qu'il soit préparé, scénarisé, tourné, produit et diffusé ensuite à plus grande échelle, notamment sur Radio-Canada. Mais au niveau de la difficulté, c'est vrai que ce concours est arrivé à point nommé parce que on est dans un microcosme francophone et on est loin de tout le reste du pays. Et comme c'est un milieu qui fonctionne toujours beaucoup par relationnel, eh bien c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de crédit officiel au Canada dans ce domaine-là, on ne peut pas non plus franchir ce pas. Donc il y a un statu quo qui est assez difficile de percer. C'est vrai que l'audience qu'on peut toucher ici en francophone, en Colombie-Britannique, est limitée. Donc le côté paradoxal, c'est de finalement passer par Toronto pour pouvoir développer quelque chose en français en Colombie-Britannique. Britannique, mais c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai eu la chance de travailler sur ce projet avec beaucoup de professionnels francophones à travers le pays, en fait, hein, que ce soit des gens que j'ai rencontrés lors de différentes réunions ou alors l'équipe de production, l'équipe de post-production, de pré-production également. C'est vraiment une francophonie pan-canadienne et nous, donc ça va du Nouveau-Brunswick jusqu'à la Colombie-Britannique, que ce soit dans différentes équipes, et même de travailler avec des francophiles, ça c'était assez plaisant aussi au niveau de l'équipe, des gens qui sont anglophones mais tout à fait francophiles et qui sont capables de communiquer dans les deux langues. On se rend compte qu'on est encore une fois en milieu minoritaire parce qu'on travaille avec un échantillon de professionnels qui est plus limité que ce qu'on aurait si on était un anglophone. Et puis on se rend compte également que dans toutes les réunions et dans tout le travail, on est très éloigné du reste du pays, notamment le marketing qui est piloté encore par le siège de l'ONF et qui n'a pas d'antenne en francophone à Vancouver capable de supporter ça, de soutenir ça. Donc on se retrouve des fois avec des situations un petit peu ubuesques où effectivement on est amené à faire des choses encore un peu pas seul, mais de faire des choses un peu de façon presque artisanale, parce qu'il faut soutenir un peu la promotion du film, et que bah, le bureau et que l'ONF essaient de rejoindre les Canadiens des deux côtés du pays, et que c'est un pays qui est en français, en étant bien minoritaire, et qui est difficile à rejoindre. Donc ça a été un plaisir de pouvoir travailler avec une variété vraiment, hein, des gens, des professionnels francophones à Toronto, du théâtre, comme quelqu'un qui m'a aidé pour le scénario, ou dans la production, avec au siège directement à Montréal, avec des professionnels québécois. Donc c'est vrai que c'est mon projet, en tout cas mon film, est un projet à l'origine très ancré à Vancouver, mais qui se retrouve renversé dans une francophonie canadienne.
La présence des francophones en Colombie-Britannique ne date pas d'hier, mais de 1793, avec l'arrivée d'Alexander Mackenzie. En 1909 était créée la première paroisse francophone à Maillardville, et c'est en 1975 que finalement le centre culturel francophone de Vancouver a vu le jour. Aujourd'hui, on estime que 42 000 francophones vivent à Vancouver et Victoria, tandis que 36 écoles francophones accueillent 5300 élèves. Et là, je ne vous parle même pas du nombre d'élèves croissants qui suivent des cours en immersion française. Pour me faire une idée de l'évolution de la communauté artistique et culturelle de la Colombie-Britannique, j'ai contacté un de ses acteurs importants, Régis Pinchot.
Régis Pinchot, travailleur culturel de ce pays, arrivé à Vancouver il y a près de 35 ans, impliqué dans la francophonie depuis toute cette période-là, dans un premier temps impliqué dans un projet qui était la Maison de la francophonie à Vancouver, construire cet espace pour les francophones. Parce que après six premiers mois passés en Colombie-Britannique, moi je me suis rendu compte que la francophonie vivait dans une poubelle, et c'est au sens propre. Le centre culturel comme tel était dans un vieil entrepôt, un ancien entrepôt où se fabriquaient des saucisses. J'ai rencontré un groupe de francophones tout à fait par hasard le 1er janvier. Lors de la baignade des ours polaires, un événement populaire ici. Il y avait une quinzaine de francophones qui venaient d'être congédiés par la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Et ces francophones-là devaient reprendre leur travail à la fin du mois d'avril. Donc, ils étaient 3 mois sans salaire. Tout le monde était un peu en colère. J'ai reconnu quelqu'un dans le groupe qui était un journaliste de Radio-Canada, Gérard Malot. Donc, il m'a présenté au groupe d'amis qui étaient là, au groupe de travailleurs, et tranquillement, ces gens-là m'ont appris que le centre culturel francophone de Vancouver, qui s'appelait le centre culturel colombien à l'époque, était en tutelle gouvernementale et qu'il se recherchait un nouveau directeur général. Bon, moi, ça m'intéresse pas tellement, j'avais fait mon entrée à l'université Simon Fraser à ce moment-là, et je devais commencer l'école quelques jours plus tard. Il y a eu beaucoup de pression pour que je fasse application au centre culturel, et j'ai finalement accepté de participer au concours. Et j'ai mis mes conditions. Les conditions, c'était que on devait construire un endroit, une place qui nous rassemble et qui nous ressemble. C'était la condition pour laquelle je m'engageais dans cette communauté-là. Et à partir de ce moment-là, ça a été un feu roulant pendant presque 3 ans, de regrouper d'abord 500 membres, 500 individus intéressés à construire ce qu'allait devenir la Maison de la francophonie. Et dans la deuxième année, on est allé chercher 1000 personnes pour construire une rue aussi francophone que les rues du quartier chinoises sont chinoises. Donc, le projet de la Maison de la francophonie devait se situer sur la 16e avenue, et il y a eu toute une série de tracasseries, dont, entre autres, la pente de l'option d'achat qu'on avait sur des terrains à cette époque-là. S'en est suivi une période assez trouble, mais quand même, il y avait beaucoup d'argent qui avait été accumulé grâce à des levées de fonds, à des organisations, à des participations gouvernementales. Et cet argent a été investi dans un immeuble qui n'était pas tout à fait adéquat, mais tout au moins, on pouvait conserver un espace pour faire le développement de la francophonie, c'est-à-dire cet espace-là qui existe maintenant sur la 7e avenue, la Maison de la francophonie, première période. Moi, j'ai été viré de ce groupe-là, donc j'ai continué à travailler, à œuvrer, en organisant une série d'événements, et il n'était pas question que j'arrête, puisque j'étais déjà impliqué dans plein de projets ici. C'est là où on a fondé, un peu plus tard, Vision Ouest Productions, pour continuer à faire cette activité, principalement en cinéma, mais aussi en spectacle, en présentation. Définir un peu mieux le rôle de travailleur culturel, impliquer les gens à ce niveau-là, et avec un volet tout particulier sur la volonté d'intervenir à l'intérieur des écoles. Le premier groupe qu'on a fondé à ce moment-là, ça a donné que c'était en même temps qu'il y avait la naissance de ce qui est devenu le Conseil scolaire francophone. Donc, partie d'une vingtaine de jeunes avec des parents derrière qui ont bien voulu créer un programme français, donc négocier avec le gouvernement provincial pour pouvoir obtenir la gestion de leurs écoles en français. C'est la raison principale pour laquelle je suis resté ici, que je suis demeuré et que j'ai voulu continuer. Donc, parallèlement à cet événement-là, cette naissance-là, il y a eu production d'un certain nombre d'activités, mise sur pied d'un festival de films. Quand la demande a commencé à grandir un peu plus, j'ai créé un club qui s'appelait le Club des 100. Une centaine d'individus qui ont investi 100$ chacun au départ. Ça nous a donné suffisamment d'argent pour être capable de louer la Cinémathèque pour faire la deuxième édition des rendez-vous du cinéma québécois et francophone. Ça a donné assez d'argent pour faire venir des artistes, comme Richard Desjardins, par exemple. Ça a donné suffisamment d'argent pour qu'on puisse se réinstaller sur la 16e avenue avec un ami qui s'appelle Alain Dubreuil, où on a commencé à créer des événements à caractère communautaire, sociaux et des événements sociétaux aussi. Donc, c'est comme ça que les premiers éléments se sont mis en branle et que mon travail s'est inscrit à l'intérieur de cette communauté-là.
Comme nous avons pu l'entendre avec Régis, la communauté culturelle et artistique de la Colombie-Britannique tente de s'organiser depuis un certain nombre d'années. Ainsi, le Conseil culturel et artistique a vu le jour le 27 mai 1996 suite à une réflexion commune des organismes culturels de la province ainsi que de la Fédération des francophones. Cette organisation à part entière a été mise en place dans l'objectif de répondre aux besoins grandissants des francophones de voir l'aspect culturel et artistique de la communauté s'épanouir davantage. Au fil des années, le Conseil culturel et artistique de la Colombie-Britannique est devenu une voie unique pour le soutien et le développement des arts et de la culture, tant au niveau provincial que national. Pour avoir une idée d'à quoi ressemble la communauté culturelle et artistique de la Colombie-Britannique, j'ai contacté le directeur général du Conseil culturel et artistique, Jean-François Packwood.
Bonjour, mon nom est Jean-François Packwood, je suis le directeur général du Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique, qui est l'organisme porte-parole provincial du secteur des arts et de la culture ici dans la province, et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille au sein de l'organisme. La communauté artistique en Colombie-Britannique, elle est quand même assez variée et diverse, à mon point de vue en tout cas, au niveau des disciplines artistiques, si on y va vraiment plus avec la lunette artistique, elle est quand même variée, donc toutes les disciplines ou à peu près sont quand même représentées. Certaines disciplines, peut-être en plus grand nombre, sauf que chanson, musique, art visuel, des disciplines comme celle-là, il y a peut-être un peu plus d'artistes en nombre, mais il y a des artistes également en art littéraire, en art numérique, multimédia, en métier d'art également, donc c'est une communauté du point de vue artistique, donc du point de vue artiste, qui est quand même bien dynamique et variée, et tout type aussi d'artistes. Bon, on n'aime pas nécessairement toujours catégoriser les artistes. Je pense que c'est un continuum. Bon, il y en a qui à certains moments vont être plus d'un côté de l'autre, ils évoluent, mais quand même, on a des gens, des artistes qui le font par pur plaisir, donc peut-être plus un passe-temps amateur, semi-professionnel et professionnel également, donc avec certaines nuances, avec certaines couleurs. Mais donc de ce côté, c'est quand même assez varié. Et si on regarde l'aspect plus large, art et culture, donc événements, organismes qui évoluent dans le domaine, il y a quand même là aussi une certaine variété et représentation, donc différents festivals sur toute la province, des initiatives en art visuel, festivals de films, compagnies de théâtre. Donc il y a quand même une certaine variété là dans ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut avoir. Après, donc il y a toujours des limites également, c'est certain, mais je veux dire, quand on regarde dans l'ensemble, quand même il y a une bonne variété d'activités et d'intervenants aussi sur la province dans le milieu francophone. Nous, le Conseil culturel, on garde une liste qui est tous les artistes avec lesquels on a travaillé, collaboré, où on a eu des informations d'eux. Donc, on le garde dans une base de données et on s'y réfère quand même assez souvent. Et en moyenne, elle varie, cette liste-là, parce qu'il y en a, je dirais, c'est peut-être un des éléments, peut-être, pour la Colombie-Britannique. Il y a quand même un certain mouvement. Donc, les gens viennent, vont être ici pour quelques années, tout ça, vont repartir, vont revenir. Donc, il y a quand même un certain mouvement dans la communauté de façon large et donc forcément dans la communauté francophone également. Mais en moyenne, je dirais, on a quand même dans notre base de données entre 200 et 300 artistes. Je dirais toujours, là, c'est quand même un peu une moyenne que l'on a. Et comme je disais, certains partent, certaines viennent et tout. Donc, il y a un certain mouvement, mais je dirais à peu près entre 200 et 300 artistes. Et on n'a pas la prétention non plus de tous les connaître. Je pense que les artistes ici, dans la province, ont cette propension de façon globale, peu importe la discipline, à aller du côté, si on regarde, bon, parlons du Canada, les deux langues officielles, francophone, anglophone, mais il y en a bien d'autres. Donc, je pense qu'ils sont, quand même assez polyvalents, si je peux utiliser ce terme-là, de ce côté-là. Cet élément-là, c'est, pour nous, en tout cas, je pense qu'on le voit plus comme une force, c'est-à-dire de pouvoir, justement, évoluer dans les deux milieu. Et il ne faut pas se cacher, les organismes francophones sont là, veulent les artistes, vont les présenter, mais de plus en plus, on le voit aussi au niveau de la communauté anglophone, les événements, si on peut dire de la majorité, donc festivals, célébrations ou autres, l'intérêt pour le fait français est de plus en plus présent aussi. Donc ça, c'est un atout pour nous, la communauté, mais c'est un atout pour les artistes, très certainement.
Grâce à Jean-François Pacoud, directeur général du Conseil artistique et culturel de la Colombie-Britannique, nous découvrons que ce ne sont pas les artistes francophones qui manquent ici. Mais quid du public?
Je pense qu'il y a une vraie difficulté à trouver un public francophone quand on est un milieu minoritaire. Et ça se retrouve également en difficulté au niveau des artistes. Parce que on est submergé dans un environnement qui est donc majoritairement anglophone, où les gens ont une attention plus ou moins poussée aux faits francophones. Donc l'agenda culturel francophone vient se superposer par rapport à l'agenda culturel dominant, qui est l'agenda de la population ici à Vancouver. Donc on a cette difficulté, donc on a moins de d'artistes, enfin une population qui est plus faible, donc avec moins d'artistes, avec une population donc qui est pas forcément non plus facile à rejoindre, parce qu'on est submergé d'informations, surtout à cette époque, dans tous les sens. Donc c'est vrai que pour les artistes, trouver un public, c'est difficile. Et puis de pouvoir maintenir une identité francophone, c'est aussi un défi, parce que tout se fait en anglais. Donc moi, je l'ai vu également en travaillant avec des artistes francophones ici, avec le Conseil culturel et artistique, en faisant des formations également au niveau de l'image qui devait véhiculer, et comment travailler avec les médias au niveau local ici, sachant que les médias francophones sont peu nombreux et que aussi on a des défis pour retrouver finalement un public cible qui est un lectorat ou des auditeurs, etc. Donc on est tous, je pense, ici à tout niveau, que ce soit les organisations, les artistes, à quel niveau que ce soit, mais on est dans un cadre où il faut réussir à garder son identité et puis à trouver son public, ce qui est un défi pour tous finalement.
Comme le dit Julien Capraro, trouver son public quand on est un artiste francophone en Colombie-Britannique peut être un défi. Du coup, on peut se demander quels sont les moyens employés par le Conseil culturel et artistique pour rejoindre le public intéressé à la culture et aux arts francophones, ainsi que les artistes qui composent la communauté.
C'est une très bonne question, et je dis que c'est une très bonne question parce que c'est justement, je pense, un des éléments où nous, le Conseil culturel, mais même plus largement, je pense que l'ensemble des organismes, on se pose constamment. Donc, au niveau public, ça c'est certain, parce que on a peut-être toujours un certain renouvellement à faire. Le bouche à oreille, je pense que c'est un des éléments qui semble être très fort et tout. Les gens viennent, en parlent à d'autres, donnent l'information. Ensuite, c'est sûr que on a une communication constante aussi à faire. Donc, bon, les médias plus traditionnels, donc ça, on les utilise. Ensuite, médias sociaux, sites internet, etc. Mais donc, je dirais c'est ça. Puis l'élément aussi, c'est ce qu'on sur lequel on travaille. Enfin, je pense qu'on doit davantage travailler. C'est justement travailler ensemble collectivement. Donc, un événement qui se passe à Victoria ou à Prince-George, la promo ou l'information qu'ils vont faire, le public qu'ils vont recevoir. Et là, si pour eux, ben, c'est un contact avec la francophonie. Et après, si c'est de dire, ben, voici ce qui se passe aussi dans l'ensemble de la province, même si c'est des gens qui habitent à Prince-George, ben là, c'est de dire, ah, donc oui, il y a des événements ici, chez nous, mais il y en a aussi ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est un élément qu'on fait, qu'on a peut-être à travailler un peu plus, donc avoir vraiment ce réflexe-là de le mettre de l'avant. Parce que même si on dit des fois, bon, c'est sûr que les gens n'iront pas à telle autre ville de la province, la distance et tout, je pense que c'est plus de démontrer qu'il y a un réseau d'activités et que c'est pas une petite francophonie unique dans telle ville. Non, il y a tout un ensemble dans la province. Il y a différents d'endroits où la francophonie existe, il y a des francophones qui sont là. Donc, je pense que ça, c'est un élément. Et justement, nous, au niveau du conseil, comme on est organisme provincial, on vise à travailler de plus en plus dans cette optique-là. Justement, en février dernier, on avait fait un lancement de saison de la période hiver et printemps. Donc, on avait appelé finalement lancement de saison des 150 premiers jours de l'année 2017. La thématique étant aussi derrière, donc avec le célébration du Canada 150, donc ça tombait quand même bien. Mais c'était bon relié aussi certes avec le lancement de notre nouveau logo, mais c'est dans une volonté de justement mettre nos efforts de façon collective pour démontrer tout ce qui se fait, ce qui est présent au niveau francophone, mais sur l'aspect plus large, non pas sur une région spécifiquement, mais beaucoup plus au niveau de la province. Donc, c'est une première initiative. Pas une première initiative de communication concertée parce qu'on fait des publicités. Il y a au niveau de la Fédération des francophones l'annuaire des services en français qui regroupe beaucoup plus largement toute la province qui se fait. Donc c'est pas une première initiative niveau promotion collective, mais pour nous, le Conseil culturel, dans l'optique d'un lancement de saison, c'était plus large provincial, c'était une première et on vise à tenter l'expérience à nouveau, donc de regrouper un peu tout ça. Donc je pense que c'est ça, c'est de peut-être regarder un peu plus largement comment on peut s'appuyer les uns les autres, même si on fait une promotion qui est plus sur un événement spécifique dans une ville ou une région très spécifique où l'organisme, par exemple, est situé. Je pense que si on prend plus le réflexe de parler de l'ensemble de la francophonie, mais là, on démontre déjà l'intérêt. Et peut-être ces personnes-là, justement, sont dans une ville X, mais connaissent des gens dans une autre de la province et là, on en reparler et tout. Donc, je pense que c'est, ça, c'est un des éléments. Et la même chose avec les artistes. Donc, là, je parlais peut-être plus du grand public, mais les artistes, c'est la même chose. C'est dès qu'il y a des activités, des événements qui se font, des artistes d'ici ou même des artistes de l'extérieur, parce que ça fait partie aussi de la promotion. Lorsque des festivals, par exemple, font venir des artistes de l'extérieur, si on leur démontre, on leur parle des autres événements qui se font, ben eux, déjà, ont un intérêt pour peut-être revenir à ces autres événements-là, mais en même temps, vont en parler aussi lorsqu'ils vont aller dans d'autres provinces ou dans d'autres événements. Donc, on fait parler finalement du fait francophone, de ce qui se fait en français, en Colombie-Britannique, et de cette façon-là, ben, je pense que ça fait son chemin ici. Donc, c'est d'en parler le plus que l'on peut, même si c'est à l'intérieur de la province, mais à l'extérieur aussi. Je pense que de cette façon-là, on réussit peut-être à la faire rayonner davantage. Donc ça, c'est un élément. C'est pas toujours facile. Parce que, comme je disais au début, certains groupes ou des francophones vont arriver ici et à la base, et c'est tout à fait légitime, je veux dire, tout le monde a droit, mais ils vont pas nécessairement s'identifier à la communauté francophone. Donc, il faut aller peut-être plus les chercher en respectant ben, justement leur intérêt, leur volonté aussi. Peut-être que c'est pas maintenant, mais ce sera plus tard. Donc, il n'y a pas nécessairement non plus de quartiers francophones ou de régions dans les villes, dans tout ça, où vraiment on sait que les francophones sont là et tout. Il y a des organismes, certes, mais au-delà de ces centres, si on veut les rejoindre. Donc là, c'est sûr qu'il faut peut-être des fois user un peu plus de stratégie, d'innovation, de créativité, mais on a des efforts de ce côté-là, c'est sûr à mettre, et je pense qu'en mettant nos ressources en commun, je pense que c'est une des clés. Donc, on y travaille, on a tous nos propres défis, ressources humaines, financières, etc. Donc, des fois, ça limite, et malheureusement, on sait aussi que c'est l'aspect de la communication qu'on doit un peu laisser si on n'a pas tout à fait toutes les ressources. Donc, on veut faire le projet. Donc, fait qu'il y a certes qu'il y a des efforts à mettre de ce côté-là. Ça, je pense qu'on est conscient. Puis, on essaie d'identifier des stratégies plus innovatrices, justement, pour essayer de mettre nos efforts en commun. Donc, à mon avis, c'est quand même un constant développement là, qu'il faut faire de ce côté-là.
Mais doit-on se limiter au public francophone?
Je pense que certes rejoindre les francophones de langue maternelle, les francophiles et j'irais même aussi les amoureux des francophones qui ne le parlent peut-être pas nécessairement, mais qui soit veulent apprendre ou veulent vivre cette culture. Donc ça, je pense que c'est des éléments sur lesquels il faut tabler, justement, comme je disais, que ce soit les artistes ou même les organismes, les festivals, les événements, sont conscients de ça parce que les interventions, l'approche, souvent va être dans les deux langues officielles du Canada, donc en français certes, mais en anglais également.
Comme nous le voyons, la communauté artistique et culturelle de la Colombie-Britannique ne manque pas d'initiatives et d'enthousiasme. Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur le sujet, nous pourrions par exemple parler du redéveloppement de la Maison de la Francophonie, mais malheureusement nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que nous vous aurons donné envie d'en découvrir plus sur les artistes qui œuvrent dans notre province. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web du Conseil culturel et artistique de la Colombie-Britannique, ccrfcb.com.
Donc, un mot de la fin, c'est il faut regrouper. Il faut absolument trouver le moyen de regrouper ces forces vives. Il faut trouver le moyen que quand on fait des projets collectivement, faire des projets collectifs, chacun dans notre coin, on n'arrivera à strictement rien.
Thanks for joining us for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie, presented by la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and the station. To learn more about the RBF series and the National RBF Celebration, and to send us your comments, visit ncra.ca/RBF.